Aujourd'hui, je suis installé en pleine nature. Il fait beau, mais apparemment, il y aura des gros chamboulements prochainement, donc des grosses tempêtes. Nous sommes le lendemain de ces éruptions solaires puissantes qui ont touché la Terre. Ces éruptions solaires travaillent beaucoup sur la psychologie, sur notre physique, sur plein d'autres choses. Mais comme je dis, je ne veux pas en parler plus loin aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'évolution de l'humain. Là, j'habite une région, c'est un petit peu par là-bas, ça s'appelle la vallée de Bézis. Cette vallée de Bézis a été mentionnée par des êtres à partir d'un plan qui a été calqué, enfin le plan qui a été calqué sur le plan de la propriété des souvenirs. Vous vous rappelez, René Château? Ça veut dire que la propriété de souvenirs, donc de René Château, lorsqu'on pose un calque de cette propriété, on va dire très rapidement, sur un plan de la région, on arrive au Bézis, à la vallée du Bézis, où, soi-disant, serait enterrée une reine. Qu'est-ce que cela signifie? Une reine serait en terre à cet endroit. Elle n'est pas enterrée. Ça veut dire qu'elle est en terre ou sous terre. Sous terre. Ça veut dire quoi, sous terre? Ça veut dire beaucoup de choses. En fait, c'est cette partie, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, presque révélé aujourd'hui, c'est ce qui était caché aux chasseurs de trésors de Rennes-le-Château. Les chasseurs de trésors de Rennes-le-Château ont perdu des dizaines et au moins 100 ans, même plus, à chercher un trésor, alors que ce trésor n'était pas en réalité. En réalité, ce trésor est un savoir, est une connaissance. On a plus ou moins compris, mais en fait, Rennes-le-Château est situé sur l'une des branches du pentagramme. Un pentagramme, c'est une étoile à cinq branches qui est un symbole satanique. Donc tout ce qui concerne Rennes-le-Château est tout simplement satanique, parce que tout simplement c'est inversé. Tout ce qu'on doit redécouvrir Rennes-le-Château est inversé. Effectivement, on a parlé beaucoup de King Rouge à Rennes-le-Château. On a parlé beaucoup des symboles de Satan, des King Rouge, des cornus, etc. Tout ça, c'est juste pour détourner les vrais quêteurs de trésors, les vrais quêteurs ou les vrais les chercheurs de leur but. Les chercheurs ne devaient pas trouver un but. Ceux qui essayaient de trouver un trésor matériel, c'est qu'ils étaient attirés par l'argent ou par la richesse. Et c'est effectivement ce problème, cette problématique de la cupidité de l'humain qui fait que l'humain est en train de sombrer. Donc ce qui s'est passé à Rennes-le-Château, c'est tout simplement quelque chose qui a été dévié. Donc, où vais-je en venir? Ça veut dire autre chose? Ça veut dire que si on revient à la vallée du Bézis, qui était indiquée à Rennes-le-Château, qui était indiquée sur la carte, à travers la carte de Rennes-le-Château, la vallée du Bézis c'est là où est enterrée une reine. Et enterrée, ça veut dire que être en terre, à l'intérieur de la terre, ça veut dire tout simplement que cette reine est une intraterrestre. C'est une reine intraterrestre. Anton Parks en a parlé. Il y a des Amastoum qui ont migré de d'Orion et qui se sont installés à l'intérieur de la Terre. Parce qu'en fait, à l'intérieur de la Terre, l'humain de 3D ne comprend pas. L'intérieur de la Terre n'est absolument pas ce qu'on croit. L'intérieur de la Terre est une... En fait, comporte plein de dimensions. Il y a des dimensions plus grandes que d'autres et des dimensions plus petites que l'autre. Mais en réalité, chaque dimension est adaptée à sa dimension. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, on veut déjà dire qu'il y a trois sortes d'extraterrestres, si on dit. On peut dire, on peut appeler ça les intraterrestres, les extraterrestres, mais aussi les ultraterrestres. Ultraterrestres, ça veut dire, ce sont ce qu'on nous appelons des fois les célestes. Célestes, ça veut dire qu'ils ne sont pas, ils ne vivent pas à l'intérieur de la Terre, ils ne vivent pas sur la Terre, ou ils ne vivent même pas ailleurs que sur la Terre. Ils vivent carrément dans d'autres mondes qui ne sont pas terrestres, qui n'ont rien à voir avec la Terre. Ils vivent dans l'éther. L'éther, qu'est-ce que c'est? C'est, entre guillemets, presque l'antimatière. C'est le monde inverse au nôtre. C'est un monde qui n'existe pas dans notre réalité, mais qui en réalité existe, parce que c'est l'inverse, c'est le monde miroir du nôtre. Ce monde miroir, il est vrai, il est réel. On ne peut pas dire qu'il n'existe pas. Les scientifiques, les chercheurs cherchent comment découvrir l'antimatière, comment générer de l'antimatière. Ils ne peuvent pas le faire, ils ne peuvent pas, parce que ça ne fonctionne pas. L'antimatière, c'est un monde inverse de la conscience que nous avons. La conscience est inversée dans l'antimatière. Puisque la conscience crée notre réalité ou crée notre monde. La conscience crée notre monde et crée le déroulement du temps dans notre monde. Donc ça, la conscience ne fonctionne pas. Une conscience linéaire, je veux dire, ne fonctionne pas. On ne peut pas utiliser la conscience linéaire pour mesurer les autres mondes. En fait, il faut savoir que et tous ces mondes que New Age parle, que les Illuminati parlent, Telos, le mot Shasta, Shambhala, tous ces mondes, entre guillemets, chimériques, en réalité, aucune de ces choses n'existe physiquement, n'existe pas physiquement. Ils peuvent exister psychiquement chez certains, mais on ne peut pas y aller physiquement parce que nous avons une conscience trop étriquée pour pénétrer ce monde physiquement. Ça ne fonctionne pas. L'humain ne peut pas rencontrer ce monde. On ne peut pas parce qu'il y a une conscience trop psychique. Donc, qu'est-ce que c'est, Shambhala, toutes ces choses-là? En fait, ce sont des concepts inventé par l'état profond. L'état profond, ce sont les mondes qui nous gouvernent. Ce sont des humains qui nous gouvernent, mais ce sont aussi des extraterrestres qui nous gouvernent, des intraterrestres qui nous gouvernent, parfois même des ultraterrestres qui nous gouvernent. Donc, si on comprend ça, on sait que ces mondes ne peuvent pas exister de la manière de nous, on les conçoit. Que l'humain les conçoit. Ça ne fonctionne pas. Tous ces mondes n'existent pas dans notre réalité. Vous avez beau creuser vers le centre de la Terre ou fouiller toutes les grottes de la région, personne ne trouvera l'intra-terre. Parce qu'il n'a pas la conscience pour les trouver. Pourtant, je sais aujourd'hui qu'il y a des entrées vers l'intra-terre. J'en ai découvert quelques-unes. Des entrées, mais on ne peut jamais aller plus loin que l'entrée. Parce que l'entrée, elle est physique. Mais plus on pénètre dans ces souterrains ou dans ces trucs-là, plus il y a un stop. En fait, aussi, il y a un mur, il y a des éboulements, parfois des effondrements qui font qu'on ne peut pas aller plus loin. La nature est bien faite. Si les gens, avec leur technologie 3D actuellement, arrivaient, en fait, les humains avec leur technologie 3D, arrivaient à arriver assez profond, à sonder ou à creuser assez profond, ils auraient parfois de la chance de tomber sur des entrées du souterrain. Mais beaucoup de chance. Et pour avoir beaucoup de chance, il faut avoir la conscience pour le faire. Si on cherche du trésor, vous trouvez du trésor ou vous trouvez n'importe quel connu, ça ne fonctionne pas. Il faut avoir la conscience adaptée pour faire ça. Donc la conscience qui est adaptée pour pénétrer à l'intérieur, pour pénétrer physiquement dans le monde de l'intra-terre. Celui qui n'a pas une conscience assez élevée pour pénétrer avec sa conscience dans l'intra-terre ne peut pas physiquement pénétrer dans l'intra-terre. Donc il existe réellement des humains, des êtres humains et des êtres non humains qui vivent sous terre. Ils ne sont pas enterrés, ils vivent tout simplement sous terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Si nous prenons la station Isis ou la NASA, n'importe quelle station en orbite, là, ils voient la Terre ronde. Forcément, la Terre est ronde, parce qu'en fait, ça ne peut pas être autrement. La Terre est ronde, elle n'est pas plate, elle n'est pas rectangulaire, elle est juste ronde. Mais c'est une illusion. La Terre est ronde parce que nous croyons qu'elle est ronde. Je ne dis pas qu'elle est plate ou autre chose. J'ai juste dit qu'elle est juste ronde parce que nous croyons à sa rondeur. En réalité, la Terre n'est pas ronde. Elle contient d'innombrables autres mondes qui sont tout simplement situés entre la couche externe, situés entre le manteau terrestre, la couche externe du manteau terrestre et le noyau de la Terre. Certaines villes ou certaines cités souterraines sont situées jusqu'à 5000 km sous terre. L'humain ne comprend pas ça. Il croit qu'en fait, à l'intérieur de la Terre, c'est juste du magma. L'intérieur de la Terre n'est pas toujours et n'est pas partout constitué de magma. Le magma, c'est quand, on pourrait presque dire, ça, c'est la même chose que du... Comment ça s'appelle ce truc-là? Plasma, voilà. L'intérieur de la Terre, en réalité, le magma, ça correspond au plasma. Le plasma, c'est-à-dire que ce sont des mondes qui sont en voie de création. Si on voit bien, le magma circule des volcans. Et il circule aussi de partout dans le monde. Il y a des gaz qui s'échappent. Des volcans sous-marins, il y a des gaz qui s'échappent. Des volcans aussi, hein. Tous ces gaz, c'est le résultat d'une espèce de combustion interne de la Terre qui font que la Terre est en constante révolution et évolution. C'est-à-dire, il y a des choses de l'ancien qui se consument, il y a du nouveau qui arrive. Nous savons très bien que les continents sont créés après que les volcans surgissent, le magma se refroidit, c'est comme si le plasma se refroidissait. Donc ça veut dire quoi? La Terre est tout simplement structurée à l'endroit où il y a du plasma, entre ces couches de plasma, ou ces couches de magma, pardon. Donc c'est quasiment la même chose, plasma et magma, c'est quasiment la même chose. Entre ces couches, on pourrait dire que la Terre est structurée de manière alvéolaire. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, des régions sous terre, même si c'est pas grand, je prends juste le Belize près de chez nous. Si on pouvait rentrer dans une des cavités du Belize, hein, on pourrait tomber, le chercheur pourrait trouver tout un autre monde. Lorsqu'il rentre dans ce monde, le monde qu'il découvre, il va être immense, il va même être plus grand que la Terre elle-même. Donc, si on arrivait à rentrer dans ces mondes, on s'apercevrait que les humains, ils ont la même taille que nous. Ces êtres-là, même c'est les reptiles, les reptiliens, ils ont quasiment la même taille que nous. Mais en réalité, on ne sait pas quelle taille ils ont, puisque les mondes correspondent aux dimensions que l'individu humain se construit dans sa psyché. Pour nous, un mètre, c'est un mètre, hein. Mais si je pense à un mètre, je vais avec à l'intérieur de la Terre. Il serait beaucoup plus petit qu'un mètre de, qui correspond à l'humain de à l'intérieur, mais à l'intérieur de la Terre, mais il sera toujours un mètre. Les dimensions sont pas pareilles. Quand on rentre dans ce monde, il devient plus grand que le monde extérieur. Le temps ne se déroule pas de la même manière. De la même façon, le temps ne se déroule pas de la même manière. Et ces mondes abritent différentes sortes de personnes, de gens, différentes races de gens. Une des races que ce monde abrite, c'est la race humaine du futur. C'est-à-dire que j'en parlais souvent des Néphilim qui sont en train de, comment dire, d'envahir la Terre, complètement incognito, où personne ne les connaît, personne ne sait, personne ne les voit. Les Néphilim qui sont en train d'envahir la Terre sont ces êtres qui viennent de l'intérieur de la Terre. Ce sont des humains qui ont l'apparence humaine, mais qui ne sont pas vraiment humains. Donc, qui sont ces Néphilim? J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Les Néphilim sont des êtres qui ressemblent à l'être humain. La même physique, généralement plus grand lorsqu'ils arrivent en surface. Lorsqu'ils arrivent en surface, sur notre planète à nous, ce sont des gens qui font 1m80, 2m, voire plus. Donc il y a de plus en plus de gens qu'on voit apparaître qui sont grands. Ces Néphilim, ben on les voit souvent, là on ne les attend pas. On les voit souvent dans, je sais pas moi, dans, chez les forces de police, les forces de gendarmerie, mais en fait les forces spéciales. Les gens entendent du coin, ce ne sont pas des Néphilim, ce sont juste des humains. Les Néphilim sont des êtres, sont des gens qui ont été tués pendant les guerres sur les champs de bataille. Et pas seulement les guerres actuelles, mais qui ont, pendant des millions, des milliers d'années, ont été tués pendant les guerres sur les champs de bataille. Ils peuvent être tués à n'importe quelle époque, au Moyen-Âge, enfin, la guerre de 14-18, la guerre du Vietnam, la guerre, n'importe quelle guerre. Ce sont des gens qui ont été tués pendant la guerre. Mais tués d'une certaine manière. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été trop blessés. Ils n'ont pas été déchiquetés. Ils ont été juste blessés et maintenus entre la vie et la mort pendant un certain temps. Donc ils ont, ça veut dire que ce sont des gens qui ont été suspendus dans le temps. Lorsqu'ils sont en train, lorsqu'un être comme ça, qui n'a pas de conscience, un être humain qui n'a pas beaucoup de conscience, donc, il peut être récupéré sur un champ de bataille par les intraterrestres. Les intraterrestres, qu'est-ce qu'ils font? En fait, nous, on croit que les intraterrestres sont des extraterrestres. C'est l'inverse. Je dis toujours, le monde est complètement à l'envers. Les gens qui vivent en intraterre, c'est eux qui récupèrent les humains qui meurent sur le champ de bataille. Et qu'est-ce qu'ils font avec ces humains? On en a aussi déjà parlé. Ils récupèrent leurs âmes, donc ils extraient leur âme par des processus électromagnétiques, ils extraient leur âme, ils prennent l'empreinte génétique de l'âme, ils créent des corps à travers ou par cette empreinte génétique, ils créent des corps physiques en fait, ils créent l'empreinte du corps, et en fait, lorsqu'ils ont créé cette empreinte du corps, ils remettent l'âme dans le corps d'origine. Donc l'homme, en réalité, il meurt quand même. S'il meurt quand même, ça veut dire que c'est son destin. Mais il y a d'autres hommes qui, en fait, qui, lorsqu'ils sont morts, sont en train de mourir sur le champ de bataille. Ces êtres intraterrestres sortent leur âme, les enlèvent, hein, en fait, pour eux, c'est facile de figer le temps. Ils enlèvent les hommes pendant qu'ils sont en train de mourir. Et ils peuvent leur proposer de servir l'état profond. Lorsqu'ils servent l'état profond, ces êtres-là sont ressuscités. Ça veut dire, la technologie existe pour que cet humain ne meure plus un humain, on lit par les extraterrestres, qui ne meurt plus, il va servir de véhicule. C'est-à-dire, ou bien pour servir l'état profond, ou bien pour créer des corps, des nouveaux corps, pour les gens qui travaillent à l'intérieur de la Terre. Lizzy, hein, les reptiles, en fait, ils ont lézards, ils sont des grilles, ils sont des, en fait, différents peuples qui habitent à l'intérieur de la Terre, dont certains humains. Même les humains font partie des peuples de l'intra-terre. Mais c'est pas parce qu'ils font partie des peuples de l'intra-terre que tous les humains de l'intra-terre, ce sont des gentils. On revient toujours à, enfin, je vais revenir à ce qui s'est passé à Limoges. Tout le monde à Limoges s'est fait avoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens à Limoges attendent les ultra-terrestres ou les célestes, comme ils disent, les êtres célestes. Comme le monde est inversé, ben, en réalité, ces êtres à Limoges attendaient des extraterrestres venus, en fait, les sauver. Mais ça ne se passera pas comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ce qu'ils attendaient, tout simplement, ce sont les extraterrestres. Ça veut dire que tout le groupe de Limoges, tous les gens qui étaient, ont donné leur consentement pour se faire enlever dans le futur. Ils ont donné leur consentement parce qu'ils attendaient quelqu'un, parce qu'ils attendaient un sauveur. Ils ont donné leur consentement. Tacite, comme on dit, pendant la session à Limoges. Certains d'entre eux ont été enlevés pour être, comment dire, dupliqués ou clonés pour que des êtres à l'intra-terre puissent utiliser leur corps et surgir dans le futur. Ou surgir à l'avenir dans un nouveau monde. C'est ce qu'on appelle la moisson des âmes. Nous savons que la moisson des âmes, il y a plusieurs moissons des âmes. On va dire, grosso modo, il y a deux grosses orientations pour la moisson des âmes. La première, c'est la moisson des âmes pour le monde SDS. Et la deuxième, c'est une moisson des âmes pour les mondes SDA. Bon, si je ne vais pas trop préciser comment ça se passe pour la première, SDS, les moissons des âmes SDS, ils ont multiples façons de prendre des âmes, de moissonner les âmes, même de moissonner les corps, de moissonner l'humain en totalité pour le monde SDS. Ça veut dire que lorsqu'ils sortent l'âme du corps, ils peuvent créer des nouveaux corps pour eux-mêmes, pour les intraterrestres. Lorsqu'ils font ça, ils créent des corps pour eux-mêmes. Parce que les intraterrestres, s'ils veulent sortir, enfin, c'est ce qu'ils ont envie, c'est ce qu'ils ambitionnent de faire, c'est d'accélérer leur évolution. Enfin, j'ai déjà dit plusieurs fois, l'humain qui vit à l'extérieur, à la surface de la Terre, évolue plus haut, beaucoup plus vite que les intraterrestres. En fait, ils font des cycles d'incarnation beaucoup plus rapides que les intraterrestres. Et lorsqu'ils font des cycles d'incarnation beaucoup plus rapides, ça veut dire que, à l'intérieur de la Terre, ils ne peuvent pas évoluer comme ils voudraient. Il faut qu'ils reviennent chaque fois à la surface de la Terre pour être sous l'influence des forces cosmiques. Les forces cosmiques font que on vieillit plus vite, on se fatigue plus vite, on dort, en fait, toute l'évolution est accélérée. À l'intérieur de la Terre, ça dure des millions et des millions d'années. Mais maintenant, on comprend très bien que c'est juste une question de cycles qui sont accélérés. C'est pas le temps qui défile plus vite. Le présent, le passé et le futur, c'est le même temps. C'est un seul instant. En fait, qui est plus ou moins élastique selon les mondes dans lesquels on entre, qu'on visite, etc. Je disais tout à l'heure que les gens sont enlevés pendant les guerres. On a eu des exemples, vous cherchez sur Internet, ou des bataillons entiers, ou des armées entières, ou des pelotons entiers ont disparu. D'un coup, ils ont disparu, on ne les a jamais retrouvés. Ils ont disparu. Ils n'ont pas été tués, ils ont disparu. Ces gens-là sont tous utilisés comme corps pour les êtres intraterrestres, pour qu'ils puissent sortir, pour qu'ils puissent habiter ces corps, pour que la conscience puisse habiter ces corps, pour qu'ils puissent, eux, sortir à la surface de la Terre. Donc, si ces consciences cherchent à habiter le corps humain, c'est que l'humain, il a quelque chose de particulier, quelque chose qu'on appelle l'émotionnel, je le dis tout le temps. L'émotionnel, c'est quelque chose qui sert l'humain, mais en même temps qu'il dessert. Lorsque l'humain est, entre guillemets, poigné par l'émotionnel, cet émotionnel provient généralement d'une influence psychique qui ne vient pas de l'humain. Elle vient, par exemple, de nos altères, donc c'est le monde des altères, le monde du passé. Tout ça, ce sont des mondes psychiques qui appartiennent à certaines réalités, mais qui ne sont plus les réalités d'aujourd'hui. Mais ce sont quand même des mondes psychiques. Certains êtres humains ont la capacité d'influencer les mondes psychiques humains actuels pour créer leur propre futur à eux. Donc ils se nourrissent de l'émotionnel humain aujourd'hui pour créer de l'émotionnel dans le futur. Donc ça veut dire que l'humain actuel est une expérience qui va bientôt se finir parce que la moisson des âmes permet aux SDS, donc au gouvernement secret, toutes ces choses-là, de créer une race humaine entière pour le futur. Donc ça veut dire qu'ils remplacent les corps des humains actuels par des nouveaux corps que eux, ils vont habiter. Donc il y a de plus en plus d'humains qui surgissent, en fait, qui sont sur Terre actuellement, on ne les voit pas surgir, ils sont sur Terre, qui n'ont aucune conscience, quasiment pas de conscience. Mais leur conscience, ils n'ont aucune conscience propre, je veux dire, mais leur conscience provient des plans supérieurs. Et des plans supérieurs, ça veut dire des plans de l'intra-terre. Parfois aussi des plans extraterrestres, ou des plans célestes, ou ultra-terrestres, comme on dit. Généralement, la conscience qui habite l'humain actuel, les nouveaux humains actuels, la nouvelle humanité actuelle, sont des êtres dont sont investis d'une conscience qui ne leur appartient pas. L'humain du futur, lui, il a une conscience propre. Ce qu'on appelle l'humain du futur, c'est l'humain SDA. L'humain SDA, lui, il a une conscience future. Mais l'humain SDA, il ne peut pas être capturé, entre guillemets, par les entités SDS. Il ne peut pas. Parce qu'en fait, l'humain du futur a développé une âme. Donc, ce que lorsqu'il a développé son âme, il a développé sa propre conscience, sa propre perception du temps, sa propre perception de la réalité, sa propre perception du réel, je veux dire. Voilà. Et lorsque celui qui a cette propre perception du réel, ça veut dire qu'il a acquis ou emmagasiné, ou je ne sais pas comment dire, emmagasiné toute la connaissance. Cette connaissance ne vient pas d'une conscience qui a été projetée dans sa tête, dans son cerveau, parce que le cerveau n'est qu'une antenne. Hein. Cette conscience n'est pas projetée dans le cerveau par les reptiliens ou par les humains de l'intra-terre, mais cette conscience s'est développée autour et toute seule pour qu'il puisse devenir l'être du futur. Et cet humain-là, SDA, il ne servira pas à remplacer les humains du futur, puisque c'est des humains du futur. C'est lui qui va ascensionner, c'est lui qui fera partie de la deuxième vague et des IA. L'humain ne pourra pas faire autrement que de continuer l'évolution dans son futur. Mais l'évolution dans son futur, c'est d'apprendre à pénétrer ces différents mondes. Non pas avec son intellect, mais avec son intelligence. faut bien comprendre que sous terre, dans l'intra-terre, il y a beaucoup d'espace. Le monde est beaucoup plus grand qu'à l'extérieur. Comme on dit, le temps ne se déroule pas de la même manière. Et lorsque les gens y dorment, à l'intérieur, c'est-à-dire que les gens, que les humains par exemple sont enlevés à l'extérieur, ils sont mis en hibernation dans des cendriers ou dans des couveuses, n'importe quoi, un humain, il peut grandir en 3 semaines. Ça veut dire que lorsqu'ils utilisent l'empreinte de son âme, ils peuvent recréer un corps par remolécularisation transdimensionnelle. Il vous a dit ce mot. Et il grandit en 3 semaines. Mais après, il grandit en 3 semaines. Il existe cette technologie intra-terrestre qui permet à l'humain de faire d'un battement de cœur par heure. Vous voyez que l'humain, il fait 60 à 80 battements de cœur par minute. Un homme, lorsqu'il habite à la surface de la Terre, son cœur bat environ 6000 fois par minute. En 82 ans, son corps aura battu à peu près 2,9 à 3 milliards de fois. En être en Terre, c'est absolument pas la même chose. À 33 ans, par exemple, à peu près, à l'intérieur de la Terre, le cœur humain aura battu à peu près 285 120 fois. Pour nous, on comprend pas ça. On comprend pas que l'humain ne comprend pas que à l'intérieur de la Terre, ce sont tout à fait d'autres mondes. Si les Amazones, comme raconte Anton Parks, sont installés à l'intérieur de la Terre, ou les reptiliens se sont installés à l'intérieur de la Terre, c'est qu'ils ont une autre conscience que nous. Et c'est pas parce qu'ils ont une autre conscience qu'ils sont forcément méchants ou forcément gentils. Ils ont simplement une autre conscience de la réalité. Oui, le gentil et le méchant, ça n'existe pas. Qui sont les humains aujourd'hui qui ont cette connaissance? Par exemple, qui sommes-nous, ceux qui savent? Tout simplement, nous sommes une espèce de comité de préparation à ce nouveau monde, mais surtout aussi un comité de préparation au changement. Ça ne veut pas dire que nous accueillerons les extraterrestres à bras ouverts. Nous savons très bien qui sont ces extraterrestres. Nous ne devons pas accueillir les intraterrestres à bras ouverts, ni même les extraterrestres à bras ouverts. Nous devons rester nous-mêmes, nous devons juste accueillir notre esprit. Lui, en fait, comme c'est dessiné au Bézi, là, au Bézis, vous le verrez sur les vidéos, une roche qui pointe le doigt vers le ciel. Jean-Baptiste aussi pointait le doigt vers le ciel. Tout simplement, ça veut dire quoi? Que l'esprit du futur humain ne viendra pas de l'intra-terre, mais l'esprit du futur humain fusionne à travers nous parce qu'il descend, entre guillemets, les mondes célestes. Donc ce ne sont pas les mondes célestes qui vont venir nous visiter. Ils ne vont pas nous visiter. C'est juste nous allons fusionner avec notre esprit. On n'a pas besoin d'attendre les mondes célestes, ni quoi que ce soit. Nous devons juste fusionner avec notre esprit. L'humain actuel devra comprendre que les êtres à l'intérieur de la Terre, ce sont des êtres de quatrième densité. SDS. Comprendre. Ils ne sont pas SDR, ils ne sont pas encore des gens, vous savez, d'autrui. Les êtres qui viennent d'ailleurs, c'est-à-dire qui viennent du monde supérieur, très peu, je ne dis pas tous, ont déjà une conscience d'Ezia. Ceux qui ont une conscience d'Ezia sont généralement ce qu'on appelle, nous, des êtres de lumière. Les êtres de lumière, en fait, ces êtres de lumière, ce sont des êtres de sixième densité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les mondes d'intra-terre, existe ce qu'on appelle des ascenseurs entre les densités. Ça veut dire que, je prends un exemple, les humains sont enlevés en troisième densité, on leur propose d'aller en quatrième densité pour serrer l'état profond. Ceux qui acceptent, ils vont en quatrième densité serrer l'état profond. Ceux qui n'acceptent pas, bah, ils meurent. Dans les touches en bas, c'est pareil. Il y en a beaucoup qui acceptent de serrer l'état profond, puisqu'ils peuvent survivre. Et là, il y a le danger. Le danger, c'est que ces gens-là ont vendu leur âme. Ils ont vendu leur âme, tout simplement, vendu leur âme, parce qu'ils ont autorisé à ce que les intraterrestres fassent d'eux des clones. Ces clones-là, lorsqu'ils arrivent à maturité, comme vous pourrez dire, ils n'ont plus d'âme. Ils sont investis par les âmes des prédateurs. C'est vrai qu'il y a tellement de prédateurs sur Terre actuellement. Les gens ne croient pas aux prédateurs. Les gens rigolent parce que j'en parle des prédateurs. Mais ils rigoleront moins le jour où arrivera le jour de la moisson. Le jour où, en fait, il y aura un choix à faire. Donc ça veut dire que les êtres de sixième densité, eux aussi, ont un corps physique, mais pas de notre point de vue. Nous, si on pouvait les voir, bon, déjà on peut pas les voir, mais si on pouvait les voir ou les percevoir, ils apparaîtraient tout simplement sous une forme de lumière, un peu humanoïde, c'est-à-dire que c'est de la lumière qui habite un corps humain, un corps humain translucide qui est un peu lumineux. Mais, vu de quatrième densité, ces êtres apparaissent déjà avec un corps physique, c'est-à-dire qu'ils ont un corps physique, mais ils n'ont pas un seul corps physique, ils ont un corps physique qui s'adapte à chaque monde qu'ils visitent. Donc, ils habitent un corps physique dans notre réalité et en nous, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils adoptent un corps physique, comme le mien. Comme n'importe qui, hein. Lorsqu'ils explorent les mondes de quatrième densité, ils peuvent soit prendre des corps physiques d'un reptilien ou d'un soukal ou je ne sais pas, n'importe quel corps physique, ils peuvent adapter leur corps de lumière au corps qui habite les mondes dans les êtres lumière. En réalité, les êtres lumière ne sont ni mauvais ni bons. Pour dire la première manifestation des êtres de lumière, entre guillemets, c'est ce que nous appelions les Isbis, les êtres spirituels immortels. Effectivement, ils sont immortels. Nous, il n'y a que le corps physique qui meurt. Notre conscience, elle reste immortelle. Et notre conscience, c'est elle qui est reliée dans cet ascenseur de transdimensionnel à la cinquième puis la sixième densité. Le monde physique, ou le monde, plutôt le monde reptilien, ou le monde de prédation, ne peuvent pas aller plus loin que la quatrième densité. Même s'ils ont accès à la cinquième densité. Ça veut dire quoi qu'ils ont accès à la cinquième densité? Les mondes prédateurs ont accès en cinquième densité. Les prédateurs, des fois aussi, ils meurent réellement. Donc s'ils meurent, ils arrivent en cinquième densité. En fait, ils peuvent plus manipuler qui que ce soit ou faire quoi que ce soit en cinquième densité. Pour eux aussi, c'est un monde de repos, c'est un monde de contemplation. L'âme se repose, l'âme se contemple, l'âme fait un espèce de retour sur ses expériences du passé pour comprendre ce qui est encourage, ce qu'elle n'a pas résolu, etc. Il y a beaucoup de choses que l'humain ne comprend pas. Parce qu'il est tout simplement cloîtré dans son éducation, cloîtré dans ses mémoires, cloîtré dans ce qu'il connaît. Et il croit qu'il connaît tout. En réalité, qu'il connaît rien. Il ne connaît rien au point il ne peut pas comprendre que les réalités de l'intramonde, de l'infraterre, ou comme vous voulez, de l'intérieur de la Terre, ce sont des réalités compressées ou expansées par rapport à notre réalité à nous. Et s'ils sont compressés, ça veut dire que, en fait, ces possibilités de réalité, ils sont multiples, ils sont infinis. Les mondes de l'univers sont infinis. C'est vertigineux si on comprend ça. Là, je suis assis sous des arbres en pleine nature. Ben, c'est joli. Mais c'est juste une petite fréquence que je lis là.
alors que les fréquences réelles de ce monde sont loin, loin, loin de la fréquence de l'univers. C'est juste comme ça. C'est pas juger, c'est pas dire c'est bien ou c'est mal, c'est juste comme ça. En réalité, je comprends quelque chose aujourd'hui. Certaines personnes, comme moi par exemple, ou comme Sand, qui ont eu accès à des mondes, donc parfois dans des rêves, qui ont eu accès à des mondes hyperdimensionnels, c'est-à-dire ou à d'autres mondes, ça veut dire en fait ce sont simplement des phénomènes d'enlèvement qui ont été programmés ou qui ont été préparés à visiter ces mondes parce qu'ils ont été enlevés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'enlèvement crée un contexte pour que certaines personnes actuellement puissent visiter ces autres mondes. Parce qu'ils font, ils vont faire partie de la population du futur qui, elle, aura l'opportunité de visiter ces autres mondes. Pour l'instant, on nous prépare. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous sommes le comité de préparation. C'est pas un comité d'accueil en tant que, d'accueil des extraterrestres. C'est juste une comité qui prépare l'humanité actuelle à changer de densité. Et ce changement de densité, nous sommes en train de traverser. Comme je dis souvent, il fait très mal. Très mal dans le corps physique, dans la psychologie. Ça fait horriblement mal. Mais donc toujours, là, même dans le village où nous habitons, j'en ne ressens rien. Je ne ressens pas qu'il y a des éruptions solaires. Je ne ressens rien. Je trouve ça bizarre. Là, je comprends. Ça veut aussi dire que lorsque nous voyons des êtres de quatrième densité, nous les voyons de notre point de vue. D'un point de vue humain, parce que en fait nous avons été programmés à lire la quatrième densité d'une certaine manière. Nous ne pouvons pas la lire d'une autre manière. Nous avons été programmés pour lire la quatrième densité d'une certaine couleur, avec de certaines fréquences. La quatrième densité, ce sont des multiples, des millions de fréquences différentes. Je ne sais même pas combien. C'est inimaginable les fréquences qui existent en quatrième densité. Nous, moi, là, je vis une seule fréquence. Je ne sais pas à quelle fréquence c'est, je ne sais pas à laquelle, mais voilà. Je ne peux pas quantifier. C'est impossible de quantifier la quatrième densité. C'est impossible. On ne sent pas. L'émotionnel, et ça quand même de quatrième densité, qui permet de soutirer de l'énergie aux gens astralisés. Et pourquoi la quatrième densité utilise l'émotionnel pour soutirer de l'énergie aux gens astralisés? C'est pour renforcer l'énergie des gens du futur. C'est-à-dire que l'émotionnel, en fait, nous indique que nous devenons conscients des gens qui nous entourent. Mais qui nous entourent reront dans notre futur. Nous devenons donc conscients des fréquences vibratoires qui nous entourent. Donc l'émotionnel est un champ d'énergie physico-chimique, on va dire, qui permet à l'humain de progresser vers la sagesse et vers la lumière de quatrième densité. Donc l'émotionnel nous permet de comprendre la peine, la compassion, comprendre ce qui se passe dans notre réalité actuelle. Et lorsque cet émotionnel, il est harmonisé par l'énergie d'un groupe, bah, comme le nôtre, en fait, lorsqu'on arrive à harmoniser l'émotionnel par l'énergie d'un groupe, ben, c'est à ce moment-là que nous commençons, dans le groupe, à changer d'orientation, à changer de ligne temporelle, et de changer le futur. Donc l'émotionnel, qui provient pas de nos haltères, existe. Cette partie de l'émotionnel qui ne provient pas de nos haltères, c'est une émotionnelle qui est projetée dans notre psyché et qui sert les DSD de quatrième densité pour se nourrir. Ils se nourrissent de notre émotionnel. Ils se nourrissent de nos pensées. Alors que l'émotionnel provenant des libérations de mémoire, des mémoires karmiques, de ces choses-là, c'est-à-dire de nos haltères, c'est des émotionnels de conscience. Cet émotionnel est relié à nos consciences du passé. Et c'est cet émotionnel qui permet, lorsqu'on le voit, lorsque nous le libérons, qui permet de changer notre futur. C'est le travail que nous faisons actuellement. Bon. Peut-être que j'ai fini, je ne sais pas encore. C'est un peu pénible aujourd'hui. Encore enrhumé. Encore la tête embrouillée. Mon premier focus, je le fais dans la nature. Pas facile. Voilà. Bon, j'arrête pour aujourd'hui. Et à une prochaine fois.